het even.
Alors bonsoir à tous, ce soir on change un petit peu de thème, on est un petit peu plus dans l'étude ce soir, mais c'est pas plus mal, hein. Et alors en fait je parlais avec Victoria, je crois, une membre de l'équipe de la radio, qui lors d'une leçon de l'école du sabbat de son église nous disait qu'en fait l'animateur disait que les 144 000 étaient des adventistes. Donc en fait, on s'est dit c'est un peu facile, c'est un petit peu facile, et on s'est demandé qui sont réellement les 144 000. Alors en fait, lorsque je préparais cette émission, je me suis un petit peu amusée à aller sur différents sites, sur des forums, un petit peu partout, pour savoir qui sont les 144 000. Alors pour Enseigne-moi, qui est un site un petit peu de référence pour le milieu évangélique. Alors, pour resituer un petit peu, la croyance évangélique dit que l'Église, en fait, on va dire les rachetés de Dieu, ne vont pas subir la tribulation. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est-à-dire qu'un jour, Marie-Louise, tu es là, et en une seconde, tu n'es plus là. En fait, c'est ça. C'est que l'Église est enlevée, et qu'en fait, les rachetés ne subissent pas la tribulation. Voilà pourquoi, en fait, si vous parlez avec certains évangéliques, pas tous, hein, mais la majorité, et que vous parlez de la tribulation, par exemple de la loi du dimanche, etc., ils ne vont pas se sentir concernés. Parce que pour eux, s'ils sont bien avec Dieu, ils ne seront pas sur terre à ce moment-là. Donc vient la tribulation, les rachetés sont au ciel avec Jésus, et il y a les 144 000. Mais alors, qui sont-ils ? Selon une majorité d'évangéliques, les 144 000 sont les premiers convertis durant la tribulation et ils sont surnaturellement protégés de cette tribulation. Donc, si vous voulez, ce sont des personnes qui sont sur terre, qui sont touchées par le message de Dieu et ils sont protégés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la tribulation, mais ils ne sont pas concernés. Alors, je suis aussi allée sur GodQuestion.com. Et en fait, autre croyance chez des autres évangéliques, il s'agit de juifs. Donc en fait, les 144 000, puisque la Bible indique qu'ils sont issus de toutes les tribus d'Israël, alors ils disent que rien ne permet d'interpréter le chiffre de 144 000 autrement que dans le sens littéral du nombre de juifs marqué de cette empreinte. C'est-à-dire que pour eux, les 144 000 sont réellement des juifs, on va dire... des juifs pour Jésus, entre guillemets, 12 000 de chaque tribu. Ensuite, pour les témoins de Jéhovah, les 144 000, c'est eux. Grosso modo, c'est eux. Et en fait, c'est assez étonnant, parce que pour eux, si vous voulez, alors moi j'ai déjà discuté avec des témoins de Jéhovah, ils pensent qu'en fait, la terre sur laquelle nous vivons ne va pas être, on va dire ça...
Purifié,
etc. Ouais. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai eu certains débats avec des témoins de Jéhovah, ils me disaient que pour eux, la terre va rester telle qu'elle. Il y aura quelques petits changements, des ajustements, mais c'est pour ça qu'ils investissent autant dans leur maison. Parce que pour eux, la maison qu'ils ont, ils l'auront éternellement. Et ouais. En fait, les 144 000, c'est un petit peu la Rolls-Royce des témoins de Jéhovah. Donc c'est-à-dire que ce sont les témoins de Jéhovah qui iront au ciel. Donc c'est-à-dire que c'est on va dire
quand tu dis la Rolls-Royce, c'est-à-dire
c'est une sorte de groupe de VIP.
Ah d'accord.
Pour, okay. Voilà, on va dire que c'est le saint des saints. Voilà, c'est l'élite. Okay, donc eux en fait iront au ciel pour vivre avec Jésus et c'est eux qui vont régir un petit peu ce qui se passera sur la terre. Alors dans le lexique un petit peu des témoins de Jéhovah, c'est ce qu'on appelle l'espérance céleste. D'accord. Espérance céleste, c'est vous faites partie des 144 000. Vous allez au ciel, vivre avec Jésus. Espérance terrestre, c'est que bon, bah, vous êtes bon, mais pas assez pour faire partie des 144 000, et vous vivez sur la terre.
D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a donné plusieurs définitions. Tu en as d'autres, des points de vue ou pas?
Non, après, juste au niveau des catholiques, pour eux, si vous voulez, les 144 000, c'est un chiffre à ne pas prendre tel quel, mais qui représente ceux qui seront sauvés.
D'accord. Alors, c'est vrai qu'on, comme on le dit à chaque début de moment de réflexion, notre objectif, c'est de pouvoir faire parler la Bible, finalement. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas là particulièrement pour dire que un tel a raison ou non, mais ce soir, nous serons là pour faire parler la Bible, et je pense que Pasteur Charlie sera justement là pour faire parler ce texte, et peut-être qu'on aura l'occasion de le lire ensemble lorsqu'il interviendra.
Donc voilà un petit peu les différentes croyances. À savoir quand même, c'est intéressant si on a des échanges. Alors pour faire court, je suis allée sur un forum qui disait, alors les 144 000 pour les témoins de Jéhovah, pour les adventistes et pour un autre groupe de personnes, c'est eux. Donc c'est-à-dire que pour les personnes qui ne sont pas adventistes, si vous voulez, eux pour eux pensent que nous croyons que nous sommes les 144 000.
D'accord, c'est le point de vue extérieur.
Extérieur, d'accord. Voilà, c'est ça. Moi, franchement, j'ai fouillé une bonne heure sur Internet, et ce qu'ils retiennent, c'est que les adventistes croient qu'ils sont les 144 000, et c'est la même chose pour les témoins de Jéhovah.
D'accord. Alors, peut-être qu'on accueillera Pasteur Charlie.
Oui.
D'accord, alors je te laisse le faire.
Eh ben, bonsoir, Pasteur.
Bonsoir, Cathy.
J'espère que tu vas bien.
Bonsoir à tous nos auditeurs.
Merci.
Comment vas-tu, Charlie ?
Ça va très bien. C'est le jour du sabbat, donc je ne peux que me réjouir avec le plus grand nombre.
Très bien. Alors du coup, je te confie à Cathy, qui saura t'introduire mieux que moi.
Alors, oui. Alors, Pasteur, alors, on se pose la question, qui sont vraiment les 144 000 ? Alors, je ne sais pas si tu as pu nous entendre, j'ai énuméré un petit peu...
Oui, tout à fait.
Voilà, les croyances un petit peu majoritaires au niveau des 144 000. Est-ce que tu peux nous dire la position de l'Église adventiste sur les 144 000 ?
Alors, justement, l'Église adventiste du septième jour... s'efforce d'avoir une interprétation biblique du texte. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu plusieurs interprétations, en partant des écrits de nos pionniers jusqu'à aujourd'hui. Sur la question des 144 000, on peut dire que ça a beaucoup évolué. Par exemple, au départ, on pensait que les 144 000 et la grande foule supposaient deux groupes distincts.
D'accord.
Un peu comme dans la position des témoins de Jéhovah.
Oui.
Et au fur et à mesure que l'Église a développé sa théologie, mais surtout s'est spécialisée dans l'exégèse biblique, eh bien, de nouvelles interprétations et de nouvelles lumières viennent éclairer ce texte aujourd'hui. Alors, du point de vue général, on va dire que l'Église adventiste du septième jour a plutôt une approche historiciste sur l'Apocalypse, c'est-à-dire que ça part de l'histoire des temps apostoliques jusqu'à aujourd'hui.
D'accord.
À contrario, d'autres dénominations ont un regard plutôt prétériste sur le texte en disant, ben, finalement, c'est un texte qui appartient au passé et qui concerne l'Église
primitive
jusqu'à peu près, voilà, d'accord, l'Église primitive jusqu'à à peu près au premier siècle.
D'accord.
Et puis on a d'autres interprétations, par exemple idéalistes, ceux qui pensent que c'est juste une allégorie qui illustre, par exemple, la lutte entre le bien et le mal. Et puis, enfin, on a une approche futuriste qui voit le texte seulement comme des prophéties à venir. Alors, le mérite de l'approche futuriste, c'est qu'elle est assez proche de l'exégèse du texte. Donc, on va laisser parler le texte.
Mmh.
Donc, effectivement, lorsque nous lisons Apocalypse au chapitre 7e, il est dit au verset 4 que Jean le visionnaire entend le nombre de ceux qui ont été marqués du sceau. Alors, pourquoi est-ce important pour nous? Ce texte est important parce que nous nous trouvons dans le contexte des sept sceaux de l'Apocalypse. Et le sixième sceau, donc au chapitre 6e, verset 17, se termine sur une question. le grand jour de la colère de Dieu est venu, qui pourrait subsister? Et en grec, c'est le verbe histémi, c'est-à-dire littéralement qui peut tenir debout. Donc, on a au chapitre 7, qui va suivre cette question, qui est en quelque sorte l'interlude avant l'ouverture du septième sceau. Donc, à la question qui peut tenir debout, la Bible répond, Dieu répond donnant la vision à Jean, à savoir, voilà, les 144 000 peuvent tenir debout, ce qui sous-entend, dès le départ, que la question des 144 000 se place dans le contexte du retour de Jésus, parce qu'on l'illustre aisément par le fait que c'est le grand jour de sa colère. Donc, dans la tradition biblique, le grand jour de la colère est associé donc au temps du jugement et en particulier au retour du Messie.
D'accord. Alors,
dire que c'est eschatologique.
D'accord. Donc, aujourd'hui, moi, par exemple, je ne peux pas faire partie des 144 000.
On ne sait pas, parce que tout va dépendre
du retour de Jésus.
Absolument.
Zut alors.
On peut pas le savoir à l'avance.
Mmh.
Puisque les 144 000 précèdent le retour de Jésus. Donc, c'est le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Mais la réponse, c'est les 144 000.
D'accord.
Et ensuite, le texte définit les caractéristiques de ces 144 000. Alors, c'est vrai que de nombreuses interprétations disent et avancent l'idée que c'est d'abord des Juifs.
Mmh.
Alors, si on accepte l'idée que ce sont des Juifs, eh bien, ça veut dire qu'il faut accepter l'idée d'une interprétation littérale en disant que non seulement ce sont des Juifs, mais il faut que ça soit aussi des hommes.
Voilà, parce qu'ils sont vierges et qu'ils n'ont touché aucune femme.
Voilà, parce qu'on compare Apocalypse 7 et Apocalypse 14, versets 1 à 5. Apocalypse 14, 1 à 5, nous parle aussi des 144 000 avec le récit de ces 144 000. Donc ça veut dire que si on dit que ce sont des Juifs, eh bien, il faut accepter qu'ils soient vierges, il faut accepter que ce soient des hommes aussi.
D'accord.
Donc on voit très bien que cette interprétation littérale
ne tient pas la route.
Ne tient pas la route et elle souffre du fait que ça voudrait dire que Dieu va se choisir un groupe d'élite uniquement fait d'hommes, mais en plus d'hommes qui n'ont jamais connu de femme et d'hommes qui n'ont jamais menti non plus.
Oui.
Donc
ça sent compliqué.
Ah oui, là d'entrée de jeu, on peut dire que c'est quasiment chose impossible puisque le texte dit ils sont irréprochables.
Oui. D'accord.
Donc, on verra par la suite ce que cela peut vouloir signifier. Mais en tout cas, l'Église adventiste pose d'entrée de jeu l'interprétation en respectant les symboles du texte.
D'accord.
Et puisque nous respectons les symboles du texte, on est obligé de faire référence aux tribus. Alors, il est question des 12 tribus. Sauf que lorsqu'on compare les textes du Premier Testament relatant les 12 tribus d'Israël et la liste que Jean le Visionnaire nous donne. Dan n'apparaît pas. Il y a plusieurs questions à se poser. Pourquoi Dan ne fait pas partie des 12? Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider à répondre à cette question. Premièrement, sur le plan historique, on sait que la tribu de Dan a été incorporée au Royaume du Nord et en particulier à Samarie. Et en conséquence, on peut dire que cette alliance, cette incorporation avec Samarie, à cause de l'invasion de l'Empire babylonien, eh bien Dan s'est compromis.
Oui, mais en fait, bibliquement parlant, ce n'est pas la seule tribu qui s'est compromise.
Bibliquement parlant, ce n'est pas la seule tribu, sauf que c'est la seule tribu qui a été aussi loin de la compromission.
D'accord.
Et d'une certaine manière, qui ne s'est pas repenti de cette compromission.
D'accord.
Donc, on va dire, à la fois un éclairage historique, mais aussi spirituel, explique le fait que la tribu de Dan n'apparaît pas dans cette liste que Jean le Visionnaire nous donne. L'autre question qu'on pourrait se poser, si on, lorsqu'on lit le texte attentivement, on se rend compte que Joseph est mentionné à la place d'Éphraïm, par exemple. Mmh. Or, lorsqu'on regarde le Premier Testament, Éphraïm et Manassé sont ensemble. Alors, l'idée, c'est que la tribu de Joseph, elle est scindée en deux, parce que, d'une certaine manière, dans cette tribu, dans cette liste de tribus, par exemple, nous avons Lévi dans la liste de Jean, mais au niveau de la construction du sanctuaire, la tribu de Lévi, elle est centrale. Elle n'est pas, elle ne fait pas à proprement partie des douze, parce que ce sont des sacrificateurs, donc ils ont une place
particulière, à part.
Particulière, absolument, en tant que sacrificateur. Maintenant, on pourrait se poser aussi la question, est-ce que ces 144 000 sont supérieurs à la grande foule, par exemple? Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier que les autres n'ont pas?
Alors, a priori, on se dit oui, parce que le texte dit qu'ils suivent Jésus partout, qu'ils chantent un cantique que personne ne peut apprendre si ce n'est eux. Donc on a quand même l'impression que les 144 000, c'est l'élite.
Alors, cela donne l'impression que c'est l'élite, mais il faut regarder de près le texte. Premièrement, au verset 1er du livre d'Apocalypse, le texte est introduit par « Après cela, je vis ». Ensuite, au verset 2, « Je vis un autre ange », etc. Lorsque nous arrivons au verset 4, « J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau ». Donc, on passe de ce qui est de l'ordre de la vision, donc de la vue, à l'audition, on entend le nombre. Donc, Jean le visionnaire entend le nombre et on lui dit, voilà, c'est 144 000 qui sont de la des tribus d'Israël. Au verset 9, il y a quand même une précision dans le texte. Après cela, je vis une grande foule.
Ah, donc, d'accord, ok.
Justement, c'est parce que plusieurs n'ont pas respecté l'exégèse du texte et ne se sont pas aperçus que dans un premier temps, on annonce à Jean le visionnaire le nombre, c'est 144 000, mais il ne les voit pas.
D'accord.
Il entend simplement que c'est 144 000. Et lorsqu'il les voit, il s'aperçoit que c'est une grande foule. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue, ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de branches de palmier à la main.
Alors, à ce stade du coup de l'étude, on peut déjà dire donc que les 144 000 et la grande foule, ce sont les mêmes.
C'est un même groupe.
C'est un même groupe, ok.
L'exégèse du texte nous fait penser à un même groupe. Parce que, dans un premier temps, il entend le nombre de 144 000 qui est annoncé, et dans un second temps, il les voit.
D'accord.
Et justement, le fait de les voir, il s'aperçoit que c'est une grande foule. Alors, ça, c'est un premier élément qui nous fait penser et que c'est un seul et même groupe, mais ce n'est pas le seul élément. L'autre élément que nous avons, c'est toujours dans le texte, c'est au niveau des caractéristiques. De la même manière que les 144 000 sont vêtus de robes blanches, ben, la grande foule aussi. Si nous comparons par exemple Apocalypse 14 avec Apocalypse 7, il est quand même dit, donc je lis, au verset 1er, Apocalypse 14, je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un fort tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de lyre jouant de leur instrument. Ils chantent comme un chant nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants, et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000 qui ont été achetés de la terre. Donc déjà, jusqu'au verset 3, on s'aperçoit que de la même manière que les 144 000 sont debout devant le trône, eh bien, la grande foule aussi se trouve debout devant le trône. Et les caractéristiques qu'ils disent, voilà, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été achetés d'entre les humains. Donc, on nous dit clairement que ces 144 000, ce sont des humains et ils sont des prémices. Et on remarque bien que entre Apocalypse 7 et Apocalypse 14, eh bien, on ne nous précise pas au chapitre 14 s'ils sont hommes ou femmes, par exemple. On nous dit simplement ils sont achetés d'entre les humains, ils sont des prémices pour Dieu et pour l'agneau, ils n'ont pas menti. Voici les caractéristiques. Mais il y a des caractéristiques communes, par exemple, comme je le disais, les vêtements, le fait de se tenir debout devant l'agneau.
De chanter le cantique nouveau.
Absolument. Alors, s'il y a un autre éclairage qui nous fait penser qu'il faut élargir ce groupe des 144 000 à la grande foule et ne pas simplement se dire, voilà, on a deux groupes distincts. Par exemple, si nous lisons Apocalypse chapitre 3, la lettre à l'église de Sardes, par exemple, il est question au verset 5 du vainqueur. Et une caractéristique de ce vainqueur, c'est qu'il sera habillé de vêtements blancs. Et cela rappelle le vêtement à la fois des 144 000, mais aussi de la grande foule. Ce vêtement blanc qui symbolise la justice du Christ. Et en ce sens-là, le message adventiste du septième jour a tout son sens, parce que la justice du Christ nous est essentielle pour le salut. Et on comprend aisément que qu'étant habillé de la justice du Christ, on comprend pourquoi les 144 000 sont déclarés irréprochables. Parce qu'ils sont habillés par le Christ.
D'accord.
Donc, autant d'indices, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout développer, mais autant d'indices qui nous montrent que nous avons affaire à un seul et même groupe.
Alors ça c'est, on va dire, la vision adventiste 2.0. Parce que moi, j'ai lu certains écrits où il y avait bien une distinction entre les 144 000 et la grande foule.
Tout à fait.
D'accord,
c'est pour ça que je disais qu'au départ, les versions adventistes se sont laissées influencer par d'autres interprétations en disant qu'on a affaire à deux groupes distincts.
D'accord.
Seulement, on a repris le texte et on a étudié le texte dans son exégèse. C'est-à-dire, que dit le texte? Est-ce que le texte dit valablement qu'on a deux groupes ou est-ce qu'en respectant les mots et la structure du texte, est-ce qu'on a affaire à un seul groupe? Et les interprétations récentes affirment clairement que c'est un seul et même groupe du fait que dans le texte, dans un premier temps,
j'entends,
et dans le deuxième temps, il les voit, ce qui n'est pas pareil.
D'accord, ok. Ok. Alors moi, j'ai une petite question, parce que la Bible indique que les 144 000 sont comme des prémices. Mais en fait, je me pose la question, prémices de quoi?
Tout à fait. Alors là, c'est une excellente question. Et c'est là la particularité de l'Église adventiste du septième jour. Nous croyons, selon la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28, ou selon le découpage de certaines versions bibliques, Joël 3, verset 1, qu'à la fin des temps, donc au temps eschatologique, juste avant le retour de Jésus, le Saint-Esprit va souffler à la fois pour préparer les hommes et les femmes, mais ce nouveau souffle de l'Esprit symbolise ce que nous attendons, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison est donnée comme nouvelle Pentecôte pour préparer l'Église dans son ensemble pour la proclamation de l'évangile avant le retour de Jésus. C'est-à-dire un dernier témoignage vibrant pour toucher le cœur des indécis juste avant le retour de Jésus. Et en ce sens-là, Matthieu chapitre 24, 14 l'atteste. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Donc, les 144 000 en tant que groupe symbolique, ben, ça s'imbrique parfaitement. Puisque nous attendons la pluie de l'arrière-saison, eh bien, tous ceux qui seront au bénéfice de cette pluie de l'arrière-saison et qui vont participer à la grande proclamation de la bonne nouvelle avant le retour de Jésus, feront donc partie des 144 000. C'est en ce sens-là qu'ils sont prémices, parce qu'ils arrivent avant la grande tribulation, et ils arrivent au moment où Dieu sait son peuple pour un témoignage puissant pour toucher le cœur de ceux qui ne sont pas encore convertis.
D'accord, d'accord. Ok. Et donc, question, si les adventistes participent, c'est qu'ils ne constituent pas à part entière ces 144 000.
Et c'est là tout le, toute la beauté du texte. C'est que lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14, il est question d'un peuple issu de toute nation, de toute tribu, de toute langue. C'est-à-dire Dieu se place au-dessus des dénominations. Mm-hmm. Il suffit pas de dire que l'on est adventiste du septième jour et que l'on fasse partie des 144 000. Pourquoi? Parce que Dieu voit dans les cœurs et il voit dans toutes les dénominations quels sont ceux qui vont accepter le message de la Bible et qui vont accepter les vérités et qui feront partie des 144 000.
Mmh. Amen. Et je confirme ça parce que moi, je m'intéresse un petit peu aux croyances des différentes religions. Et en fait, il y a des baptistes du septième jour qui sont quasiment comme les adventistes. Il y a des renouveaux catholiques qui se rapprochent énormément de nous. Moi, je suis déjà allée dans une église baptiste qui reconnaissait même Ellen White, en fait, comme prophétesse. Et en fait, il y a énormément de groupes qui, petit à petit, avec le temps, se rapprochent énormément de nos croyances. Et c'est en cela que je dis qu'en fait, quand l'Esprit donne, il la donne à tout le monde, comme tu le dis, en fonction de ce qu'il y a dans le cœur. Si tu es prêt à recevoir, Dieu te donne des vérités.
Ben, c'est Joël 2:28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est pas écrit sur quelle dénomination. Mmh. Mmh. C'est sur toute chair. C'est-à-dire, dès lors que l'esprit va toucher un cœur, cette personne sera dans ce qu'on appelle une conversion intérieure. Et tous ceux qui ont été touchés par le Saint-Esprit vont se reconnaître parce qu'ils vont partager une même foi, une même croyance et seront unis tant au niveau des dispositions du cœur que de la croyance par rapport aux vérités bibliques.
D'accord. Non, c'est intéressant ce que tu dis là. Et donc du coup, en fait, est-ce qu'on doit s'attendre à une sorte de... comment on appelle le mouvement qui réunit un petit peu tous les chrétiens? Oui, voilà. Est-ce qu'on doit s'attendre à une sorte d'œcuménisme un petit peu adventiste dans les croyances, hein?
Bon, faisons attention. Alors,
donc voilà pourquoi je dis, je sais pas comment l'exprimer, mais attention. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que des gens rentrent dans nos rangs, ou est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'en fait, à un moment donné, on se rende compte un petit peu partout qu'on croit en la même chose, qu'on a eu les mêmes vérités et qu'en fait, on ne forme qu'un seul corps?
Alors, je vais répondre par l'histoire religieuse. Dans les années 1830 à 1840, on a vu se développer le mouvement millérite avec la prédication du pasteur baptiste William Miller. Mm-hmm. Ce sont les précurseurs du mouvement adventiste qui deviendra par la suite Église Adventiste du Septième Jour. Ce que nous pouvons voir, les Adventistes du Septième Jour n'ont pas inventé le sabbat. Les Adventistes du Septième Jour n'ont pas encore moins inventé la Bible. D'ailleurs, s'il y a eu ce mouvement adventiste, c'est bien parce qu'il y a eu des précurseurs qui étaient issus de différentes confessions religieuses. Et nous remarquons tous qu'ils étaient unis dans l'attente et la croyance du retour imminent de Jésus. Et juste avant le retour de Jésus, nous aurons cette même dynamique d'un mouvement qui va dépasser le cadre d'une dénomination, même si ce mouvement va s'appuyer sur les croyants de l'Église adventiste, mais cela va dépasser tout cela parce que Dieu est au-dessus
de tout ça, des dénominations.
Et même si on ne porte pas le nom d'Adventiste du Septième Jour, mais dès lors qu'on partage toutes les croyances prônées par cette Église, eh bien Dieu nous reconnaît comme faisant partie de son grand mouvement avant le retour de Jésus. Ça n'a rien d'œcuménique, parce que si on emploie le terme œcuménique, ça voudrait dire que c'est l'unité dans la diversité. Mmh. Or, ce mouvement à la fin, c'est plutôt l'unité dans la vérité.
D'accord.
Mmh. Unité dans la vérité, mais pas dans la diversité.
Mmh. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, quand on regarde un petit peu certains écrits, bon, ils sont en anglais, c'est un petit peu embêtant, mais on se rend compte qu'en fait, lorsqu'il y a eu la prédication du message par Sémilérite, en fait, ils s'invitaient. Alors, c'est comme si, je sais pas, en fait, ils s'invitaient les uns les autres dans les églises pour discuter, étudier. Mmh. Et en fait, ils faisaient évoluer leurs croyances en fonction des études qu'ils avaient. Et en fait, je me dis qu'aujourd'hui, ça semble quand même compliqué. Ça semble compliqué.
Oui.
Mais ils avaient à cœur de comprendre la parole et d'être droit, en fait, de pouvoir se tenir droit en fonction de ça. Donc, c'est bien de rappeler qu'il y aura ce mouvement-là et que on se retrouvera un petit peu unis dans la vérité. Alors, moi, j'ai une autre question. Est-ce que ces 144 000 sont épargnés de la grande tribulation? Parce que, comme je l'ai dit, en fait, moi, voilà, je parlais avec une collègue qui me disait, oui, Cathy, je sais que tu es croyante, il faudrait que tu vois un film qui s'appelle L'Enlèvement. Alors, il y a L'Enlèvement 1 et L'Enlèvement 2. Et en fait, bon, au début du film, tout est bien. Et à un moment donné, des gens sont enlevés. Et en fait, si vous voulez, c'est ce que j'expliquais, c'est ceux qui sont marqués du sceau qui vont au ciel en un instant, et les autres, en fait, ils restent sur la terre un petit peu livrés à eux-mêmes. Et en fait, moi, je leur parlais de la tribulation, je leur parlais de l'importance du jugement, de l'importance d'être marqué du sceau pour la tribulation. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, parce que pour eux, ils sont pas concernés, en fait, par ce temps de trouble. Alors la question que j'ai envie de poser, parce que c'est vrai que on sait qu'il n'y a pas que des adventistes qui écoutent cette émission-là, c'est finalement ces 144 000, est-ce qu'ils sont, comme certaines croyances, surnaturellement protégés? Donc moi j'ai lu certains écrits qui disent que les 144 000 seront invisibles, parce qu'en fait Dieu leur donnera des pouvoirs pour pouvoir échapper à une sentence humaine portée contre les enfants de Dieu. Donc la question est-ce que les 144 000 sont épargnés de la tribulation?
Alors, les 144 000 ne sont pas épargnés de cette tribulation. Et là encore, dans le respect du texte, Apocalypse chapitre 6, verset 13, « Le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister, qui peut tenir debout ?» Donc si le Seigneur lui-même dit « qui peut tenir debout ?», c'est parce qu'il sait très bien qu'il va y avoir une tribulation. Et j'ai envie de dire « qui peut tenir debout face aux vents qui vont se déchaîner ?» sur la terre. La preuve, au chapitre 7, verset 1er, donc qui fait suite à la question qui est posée. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Pourquoi ? Verset 3, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. C'est-à-dire les serviteurs, donc les 144 000, et de manière plus juste en respectant le texte, le peuple de Dieu rassemblé à la fois les 144 000 et la grande foule. Ça veut dire quoi ? Il va y avoir des tribulations, mais puisque le peuple de Dieu, avant le retour de Jésus, est marqué du sceau, ils pourront subsister, littéralement, ils pourront tenir debout.
Alors, est-ce qu'on Vas-y, continue.
Oui, je disais la grande différence entre le peuple de Dieu et les autres, c'est que le peuple de Dieu sera marqué du sceau, donc il sera impossible de les mettre par terre parce qu'ils pourront tenir debout, parce qu'ils ont été marqués de ce sceau.
Donc, est-ce qu'on peut faire, en fait, Cathy et moi, on a eu la discussion cette semaine, et je lui disais qu'effectivement, et tu me diras si je vais dans la mauvaise direction, mais que ce qui s'est passé au temps du peuple d'Israël, lorsqu'ils ont dû enduire le linteau des portes avec le sang, pour les protéger de la plaie. Est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est une comment on dit ça, une pas une allusion mais
une image
voilà de ce qui se passera au temps de la fin par le sceau. Et en fait, on discutait de cela et Cathy me disait non, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'il en est finalement ?
Non, c'est pas que je disais que ça n'a rien à voir, mais alors, j'ai pas le texte sous les yeux, mais on dit, grosso modo, il y a un texte qui dit que les 144 000 seront persécutés, mais qu'ils tiendraient bon. Oui. Et en fait, pour moi, tenir bon, c'est même dans la mort, je ne renie pas ma foi. Ça ne veut pas dire, en fait, que je suis...
Oui, mais pourtant, ceux qui avaient mis le sang sous les linteaux, alors Marie vient intervenir, mais ceux qui avaient mis le sang sous les linteaux, ils n'étaient pas atteints par ce fléau en fait.
Oui, mais en fait, donc, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas deux textes qui sont directement liés.
Alors, qu'est-ce qu'il en est,
alors,
pasteur ?
Alors, c'est vrai que les deux textes ne sont pas directement liés, mais il y a quand même un lien. Je m'explique. Nous avons vu que... juste avant le retour de Jésus, il y a une nouvelle Pentecôte, une effusion de l'Esprit qui s'apparente à la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie prépare les enfants de Dieu, tous ceux qui sont fidèles au Seigneur, quelle que soit leur appartenance religieuse, leur dénomination chrétienne, mais quelle que soit cette dénomination chrétienne, s'ils sont fidèles, ils sont touchés par l'Esprit. Et puisqu'ils sont touchés par le Saint-Esprit, eh bien, ils font partie de ceux qui vont préparer le retour de Jésus. Et puisqu'ils vont préparer le retour de Jésus, eh bien, ils proclament cette bonne nouvelle. Et puisqu'ils proclament cette bonne nouvelle, eh bien, parallèlement, l'adversaire va faire souffler des vents contraires pour séduire même ceux qui sont des élus. En clair, le lien entre ce qui se passe au moment du sang sur les linteaux et ce qui se passe à la fin, c'est juste une question d'obéissance. Les 144 000 n'ont pas un pouvoir particulier, c'est juste qu'ils sont obéissants au Seigneur et qu'ils suivent l'inclination du Saint-Esprit. De la même manière que les enfants d'Israël restaient fidèles, Dieu avait donné cette ordonnance en disant « Mettez le sang sur les linteaux, préparez-vous. » De la même manière, à la fin des temps, le groupe, le peuple de Dieu, symbolisé par les 144 000 et plus largement cette grande foule, puisqu'ils seront fidèles, tout simplement, la dynamique voulue par le Saint-Esprit se fera et qu'ils pourront traverser les tribulations, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais c'est parce qu'ils sont fidèles au Seigneur jusqu'au bout.
D'accord. Bon, au moins, c'est clair. Alors, Marie, tu avais une question, apparemment.
Oui, on parlait, en fait, des 144 000 qui étaient marqués, qui avaient un sceau. Et je me posais la question, quel était ce sceau ?
Alors, ce sceau, nous pouvons le comprendre aisément en lisant en particulier le texte. Si nous reprenons... Apocalypse, chapitre 7. Nous reprenons donc Apocalypse, chapitre 7. Mmh. Le texte dit qu'ils sont marqués du sceau sur le front. Donc, c'est une première indication. On est d'accord ? Mmh. Ils sont marqués. Très bien. Si nous lisons la suite, par exemple, la grande foule, après cela, je vis la grande foule, que personne ne pouvait compter, nations, tribus, peuples et langues, ils se tiennent debout devant l'agneau vêtu de robe blanche. Voilà les caractéristiques. Maintenant, si nous voulons comprendre l'idée du sceau, il faut se rappeler que dans Apocalypse 14, un élément qui nous est donné, en plus de ce que nous venons de lire au chapitre 7, verset 1er Apocalypse 14, c'est que les 144 000 ont le nom de l'agneau et le nom de son père inscrit sur leur front. Mmh. Donc, si nous restons dans le texte, si nous faisons une exégèse du texte, en respectant la structure du texte, Apocalypse 7, on nous dit, eh bien, ne faites rien à la terre et à la nature jusqu'à ce qu'on marque sur le front les enfants du Seigneur. Apocalypse 14, eh bien, les enfants du Seigneur, donc les 144 000, ont une marque sur le front. Et c'est quoi cette marque? Le nom écrit du Père et du Fils. Donc, ce sceau, c'est le caractère divin reproduit dans le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire sur le plan spirituel? C'est un groupe d'hommes et de femmes qui se distinguent par un caractère, je dirais, rempli de compassion, rempli de l'amour du Seigneur et qui partagent les mêmes pensées, les mêmes objectifs et les mêmes buts. C'est aussi pour cela que ce groupe, donc ces 144 000 qui symbolisent le peuple de Dieu, c'est aussi pour cela qu'ils peuvent chanter ensemble le même cantique et qui sont les seuls à pouvoir apprendre ce cantique. C'est-à-dire ne pas se contenter de parler de Dieu, mais laisser Dieu toucher leur être au plus profond, tant et si bien que la personne du Sauveur se reflète dans ces 144 000. Et le texte est bien construit. C'est qu'ils chantent un cantique nouveau. Et juste avant, on nous dit qu'il y a eu la harpe qui introduisait ce cantique nouveau. Eh bien, nous avons plusieurs exemples dans les psaumes. Lorsqu'il est question de cantique nouveau, le cantique nouveau est souvent associé à la miséricorde de Dieu. Par exemple, le cantique, le psaume 98, fait état de la miséricorde de Dieu. Et c'est un psaume qui est joué avec la harpe. Mais on a d'autres cantiques qui expriment d'autres psaumes qui expriment la miséricorde de Dieu. Ce psaume que nous aimons, où nous répétons « car sa miséricorde durera toujours », car sa miséricorde durera toujours. En fait, le cantique nouveau est associé à la miséricorde du Seigneur.
Alors, c'est assez, pour moi, perturbant ce que tu dis là, parce qu'en fait, j'ai lu et assisté à énormément d'études sur l'Apocalypse, et en fait, l'idée majoritaire qui ressort du sceau, c'est le sabbat. Grosso modo, moi, ce qu'on m'a appris, c'est que le sceau de Dieu, c'est le sabbat, et qu'en fait, ceux qui sont scellés, ce sont ceux qui observent le sabbat. Sous-entendu, en fait, si on n'observe pas le sabbat, on n'est pas scellé, donc on ne fait pas partie des 144 000 le jour de la tribulation. Et autre idée, c'est que pour les évangéliques, le sceau, en fait, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour eux, le don du Saint-Esprit et notamment le parler en langue. C'est ça qui est l'image du sceau. Et le verset qu'il donne, c'est Éphésiens 1, verset 13, qui dit « En lui aussi, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. » Donc, en fait, comment on peut répondre alors, grosso modo, est-ce que le sabbat, c'est le sceau de Dieu? Parce que moi, ce qu'on m'a appris, c'est qu'en fait, dans un sceau, on reconnaît la personne, on reconnaît son caractère, on reconnaît sa position. Et en fait, dans le sabbat, ce qui se trouve derrière, c'est Dieu créateur et à qui toute gloire doit être donnée, parce que c'est là, en fait, où il y a le conflit cosmique. C'est que Satan dit non, il ne mérite pas toute la gloire, adorez qui vous voulez, et en d'autres termes, moi. Voilà. Et est-ce que, pour répondre un petit peu à certains évangéliques qui pensent que le sceau, c'est notamment le Saint-Esprit ou alors le don de parler en langue qui représente pour eux le don de l'Esprit par excellence, du coup, est-ce que le verset qui dit qu'ils ont été scellés du Saint-Esprit, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là ou pas?
Tout à fait. Alors, si on fait l'exégèse du texte, on sait très bien que la Bible s'explique par elle-même. On ne peut pas illustrer et expliquer le fait d'être marqué d'un sceau dans l'Apocalypse et le déconnecter du fait d'être scellé par le Saint-Esprit. Donc, il y a forcément un lien entre le fait que les 144 000 puissent être marqués du sceau et le fait de recevoir le Saint-Esprit. Tout à fait. Maintenant, cela ne veut pas dire que, finalement, que ce sceau, c'est uniquement le sabbat. Cela va beaucoup plus loin que le sabbat. Pourquoi? Parce que le vrai conflit qu'il y a dans l'Apocalypse, c'est un conflit d'adoration. Et si c'est un conflit d'adoration, ça veut dire qu'il y a aussi une fausse adoration. Bien entendu, le sabbat fait partie de la parole du Seigneur, des ordonnances du Seigneur. Donc, les 144 000 observent le jour du sabbat. Mais le sceau qu'ils reçoivent est beaucoup plus large que le jour du sabbat. Alors, c'est vrai que dans notre approche, nous disons très aisément que le sceau de Dieu, c'est le sabbat, et que la marque de la bête, c'est le dimanche.
Oui.
C'est une vérité, et comme toute vérité, les expressions courtes cristallisent une idée. Mais on sait très bien qu'une idée est beaucoup plus complexe qu'un seul jour, que simplement des éléments. C'est beaucoup plus large que ça. Donc quand on dit que c'est le sceau de Dieu par rapport à la marque de la bête, ce qu'on veut dire simplement, c'est que durant ce temps eschatologique, juste avant le retour de Jésus, les croyants auront à faire un choix, donc ce sera entre guillemets un test de la fidélité à Dieu, de la fidélité à toute sa parole, quelle que soit la dénomination à laquelle on appartient, le vrai test pour chacun, ce sera « suis-je fidèle à la parole du Seigneur ou pas ?» Si je suis fidèle à la parole du Seigneur, je dois accepter toute la révélation, et dans cette révélation, il y a aussi le jour du sabbat. J'ai envie de dire que ça n'a rien d'extraordinaire. Pourquoi l'histoire religieuse en témoigne? Les premiers adventistes n'observaient pas le jour du sabbat. Ils ne l'ont pas non plus inventé.
C'est Rachel Hooks, non, croyance, de mémoire?
Notamment, c'est elle qui a apporté cette ouverture à l'Église adventiste du septième jour. Et ces croyances venaient déjà des anabaptistes qui croyaient au septième jour. Donc, le septième jour en lui-même n'appartient pas à l'Église adventiste du septième jour. C'est le jour du Seigneur. Et lorsque le Saint-Esprit va souffler sur toute chair, tous ceux qui sont touchés par l'Esprit vont accepter le jour du Seigneur, qui est le septième jour, tout simplement. Qu'il soit adventiste ou pas, puisque ce n'est pas un problème d'adventiste ou pas, c'est biblique ou pas. C'est ça la vraie question.
Alors, il y a un auditeur qui pose la question. Du coup, puisqu'on parle de la tribulation et autres, est-ce que cette théorie de l'enlèvement est biblique ou pas?
Alors, la théorie de l'enlèvement, elle ne peut pas, elle est, comment on peut dire ça? On ne peut pas dire qu'à la fin des temps, l'un sera pris, l'autre laissé. On ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'au moment où Jésus le dit, ce qui fait que certaines dénominations ont construit sur ces versets l'enlèvement secret, sauf que on ne peut pas bâtir une théologie sur un verset. Jésus a dit, un sera pris, l'autre laissé, pour illustrer qu'il y aura, avant son retour, un jugement qui va permettre de déterminer qui est l'ivraie, qui est le bon grain, qui sera condamné et qui sera délivré. C'est aussi simple que cela. Et s'il y a enlèvement secret, cela pose la question qui sort même de la bouche de Jésus. Jésus qui est incarné en tant que souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, où il est dit qu'au moment où il va sortir de ce sanctuaire pour venir sur la terre, il dit que celui qui est juste continue à être juste, que celui qui est injuste, qu'il soit injuste, que celui qui est souillé continue à se souiller. Mais s'il y avait un enlèvement secret, Jésus ne pouvait pas parler ainsi. S'il y avait enlèvement secret, les propos de Jésus seraient tout autres. Les propos de Jésus seraient uniquement, eh bien, puisque la terre est souillée, eh bien, je viens pour pouvoir nettoyer la terre. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, voilà, je viens, et alors que je viens, celui qui est juste va continuer à l'être, et celui qui est injuste va continuer à l'être. Donc Jésus montre bien par là que jusqu'à son retour, les deux groupes de ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes subsistent jusqu'à la fin. Et qu'il n'y a aucune idée d'un enlèvement secret de l'Église qui ferait dire qu'au moment où le Christ revient, finalement, il n'y a que les injustes sur la terre.
D'accord. Et il y a la toute dernière question qui est, finalement, les 144 000, est-ce que c'est réellement un nombre, 144 000, ou est-ce que c'est un chiffre qui représente notamment les 12 tribus fois 1000 pour représenter un petit peu une multitude? Et qu'est-ce que viennent faire les 12 tribus dans cette affaire-là?
Très bien. Alors, premier élément, il faut se rappeler que Jean le visionnaire, il est juif. Donc, il est normal qu'il fasse référence aux tribus d'Israël. Pourquoi? Puisque les tribus d'Israël symbolisent le peuple de Dieu. Et dans la Bible, nous retrouvons un lien étroit à la fois entre Israël comme peuple de Dieu, mais aussi comme l'Église, peuple de Dieu. Donc, ce qui est vu dans le Premier Testament comme étant le peuple de Dieu, donc Israël, eh bien, dans l'Alliance nouvelle, donc le Nouveau Testament, eh bien, cela revient à parler de l'Église comme peuple de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal que Jean en fasse état, puisqu'il est lui-même juif. Il faut pas oublier aussi que le chiffre 12, c'est le chiffre que Jésus a choisi pour le nombre de ses disciples. Il faut pas oublier aussi qu'après le suicide de Judas, dans le livre des Actes, il a fallu remplacer Judas parce qu'ils étaient 11. Et c'est l'apôtre Matthias qui a remplacé pour que ce chiffre 12 puisse rester conforme à ce que le Seigneur avait ordonné dès le départ. Donc ce chiffre est important parce qu'il symbolise le peuple de Dieu à la fois dans l'Ancien Testament mais aussi le Nouveau. Et 12 fois 12, ça nous donne 144, fois 1000, 144 000. D'où ce chiffre symbolique donné par Jean le Visionnaire. Pourquoi ? Parce que le chiffre 1000, dans la tradition juive, c'est le chiffre de l'indénombrable. Donc, puisque 1000, c'est pour l'indénombrable, ça veut dire qu'en fait, c'est pour montrer qu'il y a que le peuple de Dieu se multiplie à l'infini. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire lorsqu'il parle des 144 000 et de la grande foule, que personne ne pouvait compter. Sous-entendu, on ne peut pas vous donner un chiffre. On entend le chiffre de 144 000, mais c'est pour dire que les élus seront très, très nombreux.
Bon, c'est une bonne nouvelle.
Alléluia.
D'accord, c'est une très bonne nouvelle parce que dans différentes croyances, il y a, c'est très littéral. Donc, c'est-à-dire que si on est le 144 001e, eh ben, manque de peau, on n'est pas sauvé. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle.
Alors, c'est une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle nous engage. Pourquoi ? Parce que être intégré au 144 000 signifie avoir le nom de l'agneau et celui du Père sur le front. Être scellé par le Saint-Esprit, voir le Saint-Esprit développer le caractère du Christ en chacun. Voir le Saint-Esprit nous sceller, c'est-à-dire nous mettre à part, nous mettre en réalité, en capacité de faire la volonté du Père. Cela sous-entend que il y aura manifestement à la fin des temps un groupe qui sera obéissant et fidèle à la parole du Seigneur. Et nous voyons que c'est tout à fait conforme avec ce qui est dit dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus.
Sous-entendu donc, là, alors j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a, il y a différentes personnes de différentes dénominations qui nous écoutent. Donc c'est-à-dire que en fait la grâce ne supplante pas la loi.
Alors dit autrement, la grâce me donne de vivre la loi.
D'accord, ok.
Et dit autrement, la nouvelle loi c'est Jésus lui-même. Et puisque Jésus, c'est la nouvelle loi, posons-nous juste une question, en dehors de toute dénomination. Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, a-t-il honoré le jour du sabbat? La Bible dit qu'il est le Seigneur du sabbat. Et cette parole de Jésus se trouve au-dessus de toute dénomination.
Et comme ça, c'est clair. c'est clair. Eh bien, en tout cas, merci. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions qui étaient posées. Alors moi, ça me remet un petit peu en question certains fondements ou bases que je pensais, on va dire, maîtriser. Merci en tout cas pour tous ces éclairages.
Alors, comme chaque depuis quelques émissions, nous allons le privilège de t'avoir au bout du fil. Donc, pasteur, nous allons peut-être prier pour conclure ce moment. Et puis ce sera l'occasion de, voilà, de pouvoir voilà, prier pour nos amis auditeurs, de sorte que l'étude de la parole retrouve sa place dans notre vie au quotidien et que nous puissions continuer à approfondir, puisque en une heure, effectivement, nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails, mais continuer à approfondir. N'hésitez pas à envoyer vos questions, d'ailleurs, que nous ne manquerons pas de faire parvenir si, pour qu'elles obtiennent des réponses. Voilà, donc si tu veux bien, pasteur, pouvoir prier, et juste avant... alors, tu disais quoi, Cathy ?
Oui, alors deux annonces. Déjà, tu fais des études bibliques à la Maison de l'Espérance, il me semble.
Oui, tout à fait.
Notamment sur l'Apocalypse. Est-ce que tu peux nous rappeler les jours ?
Et l'adresse ?
Dès ce lundi, cela va reprendre à la Maison de l'Espérance, toujours sur le livre de l'Apocalypse. Et justement, ce lundi, je vais développer ce thème des 144 000. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, ben, je les invite à être présents lundi soir à partir de 19h, rue Gracieuse, à la Maison de l'Espérance.
13 rue Gracieuse.
Tout à fait, pour que nous puissions ensemble étudier la parole du Seigneur.
D'accord.
Très bien.
Alors, on avait un petit sujet particulier pour le moment de prière qu'on va avoir. Alors, on a eu, je ne sais pas si tu l'as entendu, Sophie au téléphone. Je suis restée un petit peu au téléphone avec elle. Alors, Sophie, elle s'en est pas cachée. Elle a un petit peu fréquenté certains milieux, notamment au niveau de l'occultisme. Elle explique que c'est compliqué pour elle aujourd'hui. Elle essaye d'observer. Alors, elle me disait au téléphone que ça fait déjà 3 ans qu'elle observe le sabbat, mais que c'est compliqué aussi. Elle fume, donc elle est passée de 30 cigarettes à 10, mais elle est un petit peu peinée parce qu'elle pensait qu'elle aurait déjà arrêté. Donc voilà, elle est dans un combat, c'est compliqué aussi. Voilà, elle a eu un parcours difficile, mais elle tenait vraiment à ce qu'on prie avec elle. Donc tout à l'heure, j'ai prié avec elle, mais elle voudrait vraiment avoir du soutien dans la prière. Donc voilà, c'était le sujet prépondérant un petit peu de cette prière-là.
Exact.
Ce moment de prière.
Très bien, prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons glorifier ton nom parce que tu nous invites ce jour de sabbat à t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, j'ai à cœur de prier pour Sophie. Et par la foi, je crois, Seigneur, que selon ta volonté, elle fera partie des 144 000. Parce que les 144 000 ont ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus extraordinaire, Jésus-Christ, celui qui délivre, celui qui sauve et celui qui guérit. C'est en ce sens-là que les 144 000 font la différence. Alors Seigneur, nous te prions pour Sophie. C'est ta fille, tu connais son combat contre différentes addictions, en particulier la cigarette. Seigneur, tu as la puissance, encore aujourd'hui, de faire en sorte qu'elle puisse délaisser le tabac, mais aussi qu'elle puisse délaisser tout ce qui pourrait la séparer de toi. De la même manière, tu as su ressusciter Lazare par le souffle de ta bouche. Tu es capable aujourd'hui de donner à Sophie cette assurance que le Seigneur, le Sauveur, combat avec elle et pour elle. Seigneur, je te prie pour que son être tout entier devienne un sanctuaire pour toi. C'est vrai que le malin a tout fait pour la briser intérieurement, mais toi, tu es capable de la restaurer. Et nous croyons, Seigneur, aujourd'hui, ce jour de sabbat, jour où tu as fait de nombreux miracles, notamment le jour où tu as guéri, délivré cette femme courbée. De la même manière, Seigneur, Sophie, elle a sa vie est courbée par des addictions et par l'emprise du malin. Alors nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses faire en sorte qu'elle puisse se redresser comme cette femme courbée dans la Bible que tu as guérie. Ô Seigneur, nous te prions aussi pour nos auditeurs qui se reconnaissent au travers de l'exemple de Sophie. Alors, Seigneur, tous ceux qui se reconnaissent en elle, qui mènent ce combat, déverse ton esprit sur eux. Et nous te prions aussi pour ceux qui ont la joie d'avoir pu se laisser restaurer par toi, ceux qui ont été délivrés par toi, Seigneur, qui puissent donner leur expérience, leur témoignage. Nous te prions aussi plus largement pour tous les auditeurs d'Advent Life et nous te demandons, Seigneur, qu'en ce soir de sabbat, ta bénédiction se répande comme il est dit sur toute chair et que tous ensemble nous puissions rester unis par l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint nous conduise à la vérité car c'est l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité et cela pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Et Amen.